et depuis 2 ans prêtre ici dans le sanctuaire Notre-Dame de Montlivon. Je suis heureux de vous accueillir avec une raison supplémentaire, c'est que je suis aussi originaire de Versailles et que pour des bons souvenirs aussi vous accueillez. N'était pas sacré. J'étais à Saint-Jean. Ah, j'étais sûr. On va mettre partout, hein, désolé. Voilà, donc je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance du lieu dans lequel vous vous trouvez. En fait, la façon que je vais avoir de vous introduire à votre retraite, c'est de vous dire un peu où vous êtes. Vous êtes venu en cas, c'est arrivé finalement, apparemment vous êtes encore en pleine forme. J'ai l'impression, c'est très bien, regardez là. Mais ne ménagez pas votre peine pour autant, ne vous économisez pas. Vous êtes arrivé dans ce lieu qui est assez original, c'est un sanctuaire, des sanctuaires il y en a beaucoup, j'en connaissais plein, Lourdes, Fatima, Lisieux, etc. C'est un lieu où on va en pèlerinage, un sanctuaire. C'est un lieu où on vient prier. Donc ici déjà, première chose, c'est un lieu où on se tait, on vous l'a déjà dit, il n'y a pas moins de 10 minutes, et c'est un lieu où on vient prier. C'est un lieu de prière, c'est important que vous sachiez, que vous commenciez à prendre connaissance de ce lieu en vous disant c'est un lieu, ici comme beaucoup d'autres, hein, où on prie. Et j'ai entendu aussi que la Vierge Marie était un petit peu au cœur de votre réflexion pendant ces 2 jours. Ça tombe bien, c'est ici aussi un sanctuaire marial, comme encore une fois beaucoup de sanctuaires, dédiés à la Vierge Marie. Bien ici aussi c'est un sanctuaire marial où on vient prier en particulier la Vierge Marie. Et ce que j'aimerais un peu vous dire davantage, c'est pourquoi est-ce qu'on vient prier ici la Vierge Marie? Si on va à Lourdes, qu'est-ce qu'on va demander à la Vierge Marie? Qu'est-ce que les pèlerins, en général, vont demander à la Vierge Marie à Lourdes? De guérir. Moi-même qui suis, qui ose formuler une réponse, merci. Beaucoup de malades vont à Lourdes. Vous savez tous que c'est beaucoup de pèlerinage des malades qui vont à Lourdes pour guérir. Guérir leur corps si possible, mais aussi et surtout leur âme. Donc on vient demander à Lourdes, à Notre-Dame de Lourdes, la guérison. Donc il est pour les malades, pour que les malades traversent dans la foi leurs difficultés. Et ainsi chaque lieu a un petit peu son thème. Alors quel est le thème ici de Montlivon? Qu'est-ce qu'on vient demander à la Vierge Marie ici à Montlivon? Ah, ici, on prie pour les morts. Est-ce que tu le sais parce que tu le savais d'avant? Est-ce qu'on te l'a dit dans le quart? Ou est-ce que vous le saviez en arrivant ici? C'est ça la question.
Ouais.
On l'a dit dans le quart.
Non.
On ne vous l'a pas dit à tous. Ici, c'est un lieu assez original et particulier dans l'église, même si ce n'est pas le seul endroit où on fait, bien sûr. En tout cas, ce sanctuaire dans lequel vous êtes, il est construit pour cela, pour prier pour ceux qui sont morts. Et on vient en particulier ici prier la Vierge Marie d'intercéder, c'est-à-dire de demander à Jésus, le Fils, son Fils, et le Sauveur du monde, on demande à la Vierge Marie ici qu'elle aille intercéder auprès de son Fils Jésus, en faveur de qui? En faveur de ceux qui sont morts. Et qu'est-ce qu'on veut leur obtenir à ceux qui sont morts? Là, la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie pour toujours, mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà cette vie éternelle?
Si.
Est-ce que vous ne l'avez pas déjà vous-même? Ah bah non? Ah bah si. C'est quoi la vie éternelle? D'abord. C'est pas la vie qui finit pas, c'est une mauvaise définition. Jésus en donne une définition dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean, évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Il dit la vie éternelle, c'est bien, c'est noté. La vie
noté,
éternelle,
hein.
C'est qu'ils se connaissent, c'est pas pour nous là.
Page 11.
Attendez, un moment. C'est bien,
Page 11.
Noté, là,
c'est bien,
noté.
Alors, il faut que vous trouviez un petit endroit pour écrire là.
Page 11.
Page 11.
Merci.
Allez, maintenant, on va écouter, c'est bon, vous avez la page 11. Un crayon dans la main, ça y est, c'est pas trop perdu, c'est bon. Je répéterai ça. En tout cas, pas 50 fois. La vie éternelle est privée. On n'entend rien. Ben, si vous n'écoutez pas, il fait du bruit, on n'entendra rien.
Dans le fond, ils n'entendent pas très bien.
On est en train d'essayer d'arranger les micros. Pour l'instant, j'ai pas mieux. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est mettre l'enceinte plus au milieu ou vers le début, là, à côté. S'il y a un lieu pour la faire voir, mais je ne peux pas faire mieux. Alors, la vie éternelle, ça y est, c'est déjà noté, ça. C'est qu'ils, au pluriel, te connaissent. Je parle de nous, Jésus, là. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, bah, dis-moi, Sacré-Cœur, c'est des intellos, c'est des brutes. Donne-toi un autre, là.
Ah,
c'est trop pas vrai. Chut. Je vais répéter, mais vous vous taisez. Pas de silence, pas de répétition. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus ne définit pas la vie éternelle en disant, bah, c'est long, et on ne meurt pas, et rien. Il définit la vie éternelle par rapport au fait de connaître Dieu et Jésus. D'accord ? Donc ce que nous souhaitons à ceux qui sont morts en disant nous voulons pour eux la vie éternelle, ce que nous voulons c'est qu'ils connaissent Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez un petit peu Dieu et un petit peu Jésus-Christ ? Alors est-ce que vous avez la vie éternelle ? Eh bien oui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit aussi ? Pas d'agitation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que dit Jésus ? Toujours dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, vous irez voir précisément le verset. Qui mange ma chair et boit mon sang a... Qui a communié dimanche dernier ? Vous avez mangé le corps du Christ, donc vous avez... la vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon sang est... qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle. Il ne dit pas il aura la vie éternelle, il dit il a la vie éternelle. D'accord ? Donc vous notez ça aussi dans le petit carnet tout de suite. Ça, c'est pas dans l'évangile, c'est à Montligent qu'on le dit beaucoup. La vie éternelle est déjà commencée. La vie éternelle est déjà commencée. C'est vrai par le baptême, c'est vrai par la communion régulièrement, par la vie sacramentelle en général. Communion, confession, bientôt la confirmation,
il y a plus de...
etc., etc. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu, ça veut dire l'Esprit Saint. Est-ce que vous allez attendre la confirmation pour avoir un peu l'Esprit Saint ? Est-ce que vous ne l'auriez pas déjà un petit peu reçu ?
Merci.
Au baptême, et pas que au baptême, quand vous communiez, quand vous priez, Dieu donne l'Esprit Saint. Bien sûr qu'il y a un sacrement spécial, mais on n'attend pas la confirmation pour recevoir l'Esprit Saint. Dès qu'on est bébé, nos parents, si possible, vont présenter l'enfant au prêtre en disant « Mais on veut tout de suite pour lui la vie éternelle. On va pas attendre 10 ans, quoi. » C'est ça qu'on veut. C'est ça que Dieu veut aussi pour chacun de nous. Donc la vie éternelle est déjà commencée. Ça veut dire la vie de Dieu. Ça veut dire la vie de l'Esprit Saint est déjà commencée en nous. Non, tu l'as compris. Tu écris « La vie éternelle est déjà commencée » et avec ça, c'est bon. Et si on dit qu'elle est commencée, ça veut dire qu'elle n'est pas... Voilà, bah si, c'était bon, je vous dis. Ouais. Elle n'est pas finie, on l'a pas en ce qu'on appelle en plénitude. C'est quoi la plénitude de la vie éternelle ? L'apogée, c'est quand nous serons complètement remplis de l'Esprit Saint, moi je ne peux pas le dire en tout cas de moi aujourd'hui, je ne me sens pas complètement rempli de l'Esprit Saint, je serai quand ? Non, je ne serai pas à ma mort. Enfin, j'aimerais bien.
Ça ne serait jamais.
Je devrais vous dire, oui, je vais tout faire pour que dès ma mort, je le sois. Mais à ma mort, qu'est-ce qui va se passer ? Attends, juste. Allez, c'est quoi la mort ? C'est quand ? Alors, on fait question-réponse, on réagit, mais on essaie de s'entendre bien et de se respecter, sinon c'est le brouhaha. Hein ? Pour que ça profite à tous, il faut qu'on se respecte. Donc, j'entends... La mort, c'est quand tout finit, ce que j'ai entendu. Comment est-ce qu'on peut définir la mort ?
quand on arrête de vivre sur Terre, quand le cœur arrête de battre, ça dépend du point de vue. Du point de vue du médecin. Du point de vue du médecin, il faut un critère biologique, l'arrêt du cœur, ou l'arrêt de la respiration, ou ce qu'on appelle l'encéphalogramme plat, plus d'activité au niveau du cerveau. Ça, ce sont des critères biologiques.
La mort, c'est quand on arrête de croire en Dieu.
Non, certainement pas. Mais c'est un peu vrai, mais ça, c'est pas la mort dont je parle. Ça, c'est la mort de l'âme. Moi, je te parle de la mort du corps. La mort, c'est, d'un point de vue anthropologique, chrétien. Ouais, si tu veux. Toi, t'es philosophe, c'est bien. C'est surtout la séparation. Voilà. Écoutez bien au fond. Écoutez bien au fond, c'est un sujet important, hein, la question de la mort. On va tous y passer. Autour de nous, il y a des personnes, peut-être proches même, autour de vous. Et ça vous cause de la douleur, cette séparation, ça me pose des questions. Le monde entier, toute religion et culture confondue, se pose la question, pourquoi la mort? Pourquoi est-ce que ce que j'aime meurt? Pourquoi est-ce que je les perds? Donc la mort, on va dire plutôt... C'est la séparation, effectivement, de l'âme et du corps. Qu'est-ce qui meurt dans la mort?
Le corps.
Le corps arrête de vivre, par vieillesse, par maladie, par accident, peu importe. Il arrête de vivre, mais est-ce que tout en moi est matériel? Tout en moi n'est pas matériel. Mes idées, elles ne sont pas matérielles. Mes sentiments sont pas matériels, mon amour, c'est pas de la matière. Je peux pas dire je t'aime parce que c'est mon cerveau qui le dit. Je t'aime parce que c'est au-delà de la matière, quoi. Donc j'ai une partie de moi qui n'est pas réductible à la matière, et donc on va dire qu'elle est spirituelle. Donc elle ne meurt pas, une partie de moi ne meurt pas quand mon corps, lui, atteint le bout de sa vie. Pourquoi est-ce que la mort existe d'ailleurs? Qui a inventé la mort?
Moi.
Alors moi, j'ai entendu que Dieu a inventé la mort. Moi, j'ai vu quelque part dans l'évangile que Dieu, c'est la vie. Je suis la vie, dit Jésus. Alors, si c'est pas Dieu qui a inventé la mort, c'est qui? C'est le diable. C'est un peu l'homme aussi. Donc c'est pas compliqué. Si l'homme est la vie, pardon, si Dieu, excusez-moi, est la vie, dès lors qu'on s'écarte de Dieu qui est la vie, on tombe nécessairement dans la mort. Qu'est-ce qui cause cet éloignement de moi avec Dieu qui est la vie, et qui m'entraîne donc dans la mort? Ça s'appelle le péché. Ce qu'on appelle le péché, c'est tout ce qui me détourne de Dieu qui est la vie, qui m'éloigne de lui, lui qui est l'amour, lui qui est la lumière. Donc tout ce qui est manque d'amour, manque de charité, égoïsme, orgueil, tout ce qui est éloignement de la lumière, tout ce qui est mensonge et compagnie, m'éloigne de Dieu et me fait tomber dans la mort. Et je ne peux pas dire à Dieu c'est de sa faute. C'est pas Dieu qui me fait tomber dans la mort, c'est moi qui dis ciao mon Dieu. Je préfère aller voir par là-bas. Et ça, ça cause la mort. Alors effectivement, cette tentation que j'ai de m'éloigner de Dieu, elle est causée par le diable, par Satan. Mais c'est pas lui qui m'oblige, il me tente, et après, si j'accepte de le suivre, eh bien, je tombe dans la mort. Donc, la mort est l'œuvre du diable, retenez bien ça, et est la conséquence du péché. C'est une question, c'est une réflexion.
Mais après, quand on meurt, on va voir Dieu.
Alors, attends, j'y viens, quand on meurt, on va voir Dieu. D'abord, je dis pourquoi on meurt, et d'où vient la mort, ok? Ah mais c'est bien, là, qu'ils sont pressés. C'est compris, là, la mort, d'où ça vient? C'est clair? Ok. Donc la mort, c'est pas l'œuvre de Dieu. La mort, c'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que j'ai la vie. Donc en quelque sorte, la mort vient mettre en difficulté le plan de Dieu. Dieu n'a pas prévu ça pour moi. Dieu n'a pas voulu que je meure. Et Dieu continue à vouloir que j'ai la vie. Et qu'est-ce qu'il a fait pour m'empêcher que je sois définitivement dans la mort? Il nous a rejoints. Il a envoyé son fils Jésus qui est venu sur la terre nous affranchir, nous arracher à la mort. Il il s'est incarné, hein, à Bethléem, il a pris chair. Et vous connaissez, il est mort sur la croix, il est ressuscité. De sorte que grâce à Jésus, dès que j'arrête de parler, vous parlez. Hein. De sorte que grâce à Jésus, je peux de nouveau me dire, je crois, j'espère la vie éternelle. Mais sans Jésus, c'était foutu. Hein. On était foutu. La vie éternelle, c'était la mort. Mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons abandonnés à la mort. Il est venu nous chercher quand même. Et pour ceux qui veulent bien le suivre, il nous rouvre la porte du ciel et de la vie éternelle. C'est important ça. C'est pas comme ça en claquant des doigts. C'est parce que Dieu a donné sa vie pour nous. C'est pas la peine de dire ouais, nous les chrétiens croyons à la vie éternelle et puis sans se préoccuper. Mais pourquoi j'ai la vie? Pourquoi j'ai une telle prétention, une telle ambition dans ma vie d'avoir cette vie éternelle? Bien parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Par sa miséricorde, il n'a pas voulu que je sois anéanti par mon péché, définitivement, mais il est venu me chercher jusque dans ma mort. Ok? Donc après la mort, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez voir Dieu. Avant de parler du purgatoire, etc., d'abord il y a ce qu'on appelle un jugement. C'est quoi un jugement? C'est quoi ce jugement? Ce jugement, ça va être une lumière dans ma vie qui va mettre en évidence. Qui va mettre en évidence quoi? Qui va mettre en évidence le rapport que j'ai déjà avec Jésus. Vous comprenez ce que je dis là? Il va mettre en évidence. Parce que je te le dis. Profitant. Le rapport que j'ai avec Jésus. Dieu m'a créé pour la vie éternelle, mais cette vie éternelle, c'est pas n'importe quoi comme vie éternelle. C'est la vie dans l'amour. Dieu est amour. Dit-on aussi dans l'évangile. Et si je veux espérer vivre avec Dieu, je ne peux pas l'espérer sans me dire, alors toute ma vie ne sera qu'amour moi aussi. Parce qu'il est hors de question que quelque chose, quelqu'un entre dans la vie de Dieu et qu'il ne soit pas de l'amour. Dieu est pur, Dieu est parfait, Dieu est saint. Et nous serons avec lui dans la vie éternelle seulement dans la mesure où nous serons nous aussi purs, sanctifiés et débarrassés de tout ce qui n'est pas de l'amour. Vous comprenez bien? C'est important, hein? Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je joue ma vie éternelle. Tous mes actes sur terre, il ne faut pas se dire, ben on verra à la fin. Qu'est-ce que ce sera ma vie éternelle? Qu'est-ce que ce sera ma vie éternelle? Ce sera moi. C'est qui moi? La vie éternelle, c'est pas un prolongement, c'est pas une deuxième chance, c'est pas la continuité. La vie éternelle, ce sera moi. Et c'est qui moi? Ben, c'est moi tel que je me serais défini entre ma conception et ma mort. Donc tout ce que je fais aujourd'hui a une conséquence pour ma vie éternelle. Tout ce que je vis comme amour aujourd'hui me prépare à la vie éternelle. Tout ce que je vis aujourd'hui qui n'est pas de l'amour, qui est de l'ordre du péché, pourrait-on dire en résumé, eh bien me donne des choses en moi dont il faudra que je me débarrasse. Je ne pourrai pas rentrer dans la vie éternelle de Dieu avec tout un poids, tout un tas de salissures qui m'encombrent, qui me gênent, qui ne sont pas de l'amour, qui me rendent un peu honteux aux yeux de Dieu. Et donc, je le sais déjà, donc je m'y prépare aujourd'hui. Et je sais que le jour de ma mort, je verrai le Christ. Et je verrai aussi vraiment qui je suis aux yeux de Dieu. J'aurai une grande lumière sur moi, sur mon âme, sur ce qu'aura été ma vie. Parfois on dit, on voit sa vie défiler, si ça se passe comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurai un regard unique et totalisant sur toute ma vie. Et je verrai avec mes propres yeux, si je puis dire, vraiment la qualité de l'amour qui aura été mis dans ma vie. Ce sera un regard de miséricorde, ce ne sera pas pour me dire, hein, toi t'es mauvais, c'est pour me dire, voilà comme tu es, je t'appelle à la vie éternelle, es-tu d'accord ou pas déjà? Si tu veux pas, tu peux. Tu peux dire à Dieu, non moi la vie éternelle avec toi, non merci, je préfère vivre ailleurs, ça s'appelle l'enfer. Hein? On n'est pas obligé d'aimer Dieu pour la vie éternelle, vous n'êtes pas obligé d'aimer Dieu. Même Dieu ne vous oblige pas. sinon ce serait un tyran. Or Dieu n'est pas un tyran, Dieu nous aime. Donc Dieu ne nous oblige même pas à l'aimer pour la vie éternelle. Donc il y aura un jour, on lui dira c'est oui ou c'est non. Et c'est pour la vie éternelle. Hein? Et si on peut dire non, on peut dire mais non, moi l'amour ça m'intéresse pas. Moi aimer les autres, renoncer à moi, etc., ça m'intéresse pas. C'est prévu, il y a ce qu'on appelle l'enfer, et Dieu il sera pas et on sera tranquille. Que cela ne nous arrive pas, hein? Préparons-nous plutôt à apprendre à aimer avec Jésus. Et pour cela, pour nous tous, ils diront à Jésus, mais oui, je suis pauvre, pécheur, sale, je ne peux pas rentrer comme ça chez toi sans doute, mais je veux quand même y aller. Alors Jésus dira, et moi je serai tellement d'accord avec lui, eh bien tu vas passer par une étape intermédiaire dans laquelle je vais te laver, je vais te purifier, je vais te débarrasser de tout ce que tu ne veux pas garder pour la vie éternelle, tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a sali. Même si c'est ta propre faute. Dans l'Église, on appelle ça le purgatoire, de manière à pouvoir être en mesure un jour d'être au ciel avec Jésus et également pur et saint. Ça va? On se chuchote tout le temps. Alors je vous le dis parce que moi je vais m'arrêter de parler bientôt et je vais vous laisser à vos accompagnateurs. Je vous le dis par charité pour eux. Écoutez-moi une seconde tous. Je vous le dis par charité pour eux. Moi, je vous ai parlé que 20 minutes, là. Voilà. Je peux faire un effort. Mais c'est vraiment pénible, je vous le dis. C'est vraiment pénible d'avoir en permanence un chuchotement. Il y en a qui écoutent, c'est sûr. On se dit, bah, moi, pour cela, c'est utile. Il y en a qui n'ont rien à faire. On se dit, bah, comment on peut faire? En tout cas, c'est fatigant et c'est usant. Et ça va être usant pour tous vos accompagnateurs. Voilà. Je vous le dis, parce que moi, je vais m'en aller, je vais leur laisser le micro. Sachez-le, voilà. Quand il y a ce silence-là, c'est super sympa de vous parler. Et on est content de le faire. Quand il n'y a pas ce silence-là, on vous l'a dit tout à l'heure, quand il y a deux ou trois qui chuchotent, ça devient pénible. Et on n'a plus envie, et on est fatigué, et on a envie de dire mince. Donc, non, mais voilà, c'est clair, vous êtes des grands, on est à chipoter. Je vous le dis, faites un effort, vous n'êtes pas tous les jours en retraite. Attends, précise ta question.
Comment on peut dire ça à tant de monde alors qu'on n'est pas sûr de
ça? Moi je le dis parce que je suis sûr. Non mais c'est pas une question d'expérience. Il ne s'agit pas de dire, il y en a qui ont été voir, donc on le sait. Il y a des choses qu'on connaît par expérience, ça s'appelle la science. La science est basée sur un apprentissage par l'expérience, on fait des expériences et puis on tire des conclusions, etc. Ça s'appelle la science. Mais il y a beaucoup de choses qu'on connaît qui n'est pas de l'ordre de la science. C'est aussi ce qui est de l'ordre de la foi. D'accord ? Et de la révélation. Si je vous dis des choses, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est que Dieu lui-même a voulu se faire connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui te fait envoyer Jésus. Dieu lui-même, le premier, a voulu être connu de nous. C'est pas nous qui nous sommes dit un jour, tiens, on va inventer Dieu, on va essayer de le connaître. C'est Dieu qui veut être connu de nous. Et Dieu nous a parlé, depuis Abraham, Moïse, Noé, Jésus en particulier, tous les prophètes, tous les saints, les apôtres. Jésus nous parle. Donc on sait des choses sur Dieu, que la philosophie pourrait dire, etc. Mais d'autres choses qu'on sait sur Dieu, que rien d'autre que la foi et que la révélation ne peut nous dire. Que Dieu est amour, demandez aux philosophes, ils ne vont pas l'inventer ça. Voilà. Donc, des choses qu'on sait, qui ne sont pas de l'ordre de l'expérience, mais on le sait et on le tient pour vrai parce que Dieu a dit, parce que Dieu nous l'a dit, et que nous voulons croire dans la révélation à ce que dit l'Église. C'est un acte de foi. C'est pas un acte où tu peux calculer et te dire oui, d'après tous mes calculs c'est vrai. Tu crois, tu ne crois pas, je ne peux pas t'obliger. Je te dis, c'est ce que dit l'Église depuis 2000 ans, à la suite des prophètes qui ont annoncé Jésus, puis les apôtres, etc. C'est cohérent, c'est construit, ça répond à la vocation de l'homme. On prend ou on ne prend pas. T'as ta liberté. Et cette question de liberté, elle est essentielle. Si un jour, je peux te dire, tu pourras dire oui ou non à Dieu définitivement, la raison essentielle, c'est parce que nous sommes des êtres libres. Dieu nous a créés libres. Et cette liberté, elle doit aller jusque-là de dire... un oui ou un non à Dieu qui puisse être pleinement conscient, libre et définitif. Dieu nous a voulu libres à ce point-là. Il a pris le risque, en quelque sorte, de nous créer libres, au risque que nous lui disions, bah, écoute, dans ce cas-là, non merci, ciao. Comme on le fait parfois à nos parents, par exemple, qui veulent nous apprendre à être libres, et au risque de, qu'on leur dise, bah, salut, non merci pour vos conseils, je fais un peu ce que je veux. Ça arrive parfois. Hein? Voilà, la liberté, c'est important, ça. Et si on reçoit la confirmation, quand on grandit, quand on passe à l'âge adulte, c'est aussi pour grandir en liberté. C'est quoi la liberté? Je termine peut-être là-dessus. C'est quoi la liberté? Est-ce que la liberté, c'est de faire ce que je veux?
Avoir le choix.
J'ai l'impression qu'il y a eu un cours récemment sur la liberté. Il y en a qui cherchent, qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? La liberté, je vais vous dire ce que c'est. La liberté, c'est la faculté que j'ai d'aller de moi-même vers ce qui me semble bien. La liberté, c'est la faculté que j'ai. La liberté, c'est la faculté que j'ai d'aller de moi-même vers ce qui est bien. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire savoir ce qui est bien. Ça veut dire savoir ce qui est bien et ça veut dire décider d'y aller. Il y a ceux qui savent très bien ce qui est bien, mais qui ne vont pas faire d'efforts pour y aller. Eh bien, ce ne sont pas des gens libres. Et il y a ceux qui choisissent le mal et qui y vont. La liberté, c'est trouver ce qui est bien. Ultimement, pour les chrétiens, le vrai bien, c'est Dieu. C'est la vie éternelle. Et ça veut dire prendre les moyens, parce que c'est pas... quelqu'un ne va pas le faire à ma place, si je suis libre. C'est avec ma volonté que je me déplace, que je me dirige pour acquérir ce bien que j'ai. C'est librement que je choisis le bien que je, vers lequel je veux me diriger, vers lequel je veux diriger ma vie. Et c'est moi qui choisis de faire les efforts qui correspondent. D'accord ? Et pour obtenir le bien ultime qui est Dieu, bien sûr que j'ai besoin d'un moyen, pas seulement naturel, de petits efforts. Mes efforts humains sont toujours insuffisants pour atteindre Dieu. Dieu n'est pas à la portée de l'homme humainement. C'est pour ça que Dieu donne des moyens surnaturels, par exemple la confirmation, pour que je sois capable de m'attacher, de ne pas renoncer à dire c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux, c'est ça le bien, et que malgré tous les efforts que ça coûte de l'obtenir, eh bien je vais quand même l'obtenir. Voilà, ça c'est la vie chrétienne, dans la liberté. Personne n'est contraint, personne n'est obligé de dire c'est Dieu qui est bien. Personne ne vous forcera à y aller, mais si vous voulez vous considérer comme des hommes libres et des femmes libres, c'est à vous de choisir ce qui vous semble bien, et c'est à vous de décider d'y aller. Et personne ne fera à votre place. Voilà. Ça va ? Donc on prie ici donc pour les défunts. Je n'ai pas beaucoup parlé des défunts, mais on prie pour eux dans cette perspective. Ils font partie de l'Église, ce sont nos parents, nos grands-parents, nos amis, nos frères et sœurs peut-être, des gens proches, des gens qu'on ne connaît pas, mais tous, toute l'humanité est appelé à vivre avec Dieu dans l'amour. Alors nous aidons les uns les autres. Parce que notre prière est efficace pour eux. Je ne développe pas beaucoup, mais c'est important de le dire. Merci de votre attention. Retenez bien tout plaisir que vous faites à vos accompagnateurs qui donnent du temps pour vous, simplement en les écoutant. Dites-vous que c'est un acte de charité. À défaut d'y trouver votre intérêt, si ça vous ennuie, au moins dites-vous, je fais un acte de charité, au moins je me tais. Et votre charité sera toujours utile. Parce qu'on est jugé sur l'amour. Voilà, je ne perdrai pas votre temps.